Alors, je vais passer la parole maintenant à Vaios Koutroulis, qui est assistant dans la même maison, à l'Université libre de Bruxelles, et qui prépare une thèse sur les interactions entre le Ius ad bellum et le Ius in bello, si je ne me trompe.
A soutenu.
Excuse-moi.
Mon absence du pays m'excusera. Voilà, je te passe la parole.
Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon exposé cet après-midi sera consacré à l'autre volet de règles qui régissent la guerre, c'est-à-dire au droit international humanitaire, ce qu'on appelle le Ius in bello. J'axerai mon exposé plus particulièrement sur les questions que soulèvent à son égard deux incidents précis, à savoir d'une part le désengagement des forces israéliennes de la bande de Gaza en 2005, et d'autre part, l'interception d'un navire de la flottille en direction de Gaza le 31 mai 2010. Le désengagement des forces israéliennes soulève la question suivante. Est-ce que Gaza est toujours un territoire occupé après le retrait des forces du territoire en question? Je tenterai de répondre à cette question dans la première partie de mon exposé. Quant à l'interception d'un navire, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que l'incident a donné lieu à deux interprétations complètement différentes. Il y a eu un rapport issu par la mission internationale d'établissement des faits mis sur pied par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui avait comme mandat d'enquêter sur les violations du DIH et des droits de l'homme auquel a donné lieu l'interception du 31 mai. D'autre part, il y a eu la commission publique mise sur pied par le gouvernement israélien connue sous le nom de commission Turkel, qui a rendu son rapport en janvier ou février 2011. Et donc, je tâcherai de naviguer avec vous à travers le zoo miné par ces deux considérations, appréciations juridiques différentes, pour vous donner une appréciation juridique des aspects les plus importants que soulève l'incident de l'interception d'un navire de la flottille. Tout d'abord, est-ce que Gaza est toujours un territoire occupé? En bref rappel de fait, le plan de désengagement prévoyait l'évacuation, notamment de la bande de Gaza, par les forces israéliennes et les habitants des villes et villages israéliens. Il a été mis en œuvre entre le 15 août 2005 et les dernières personnes israéliennes ont quitté la bande de Gaza le 12 septembre 2005. Israël a gardé le contrôle sur les frontières terrestres de la bande de Gaza, ainsi que sur l'espace maritime et aérien, et ont réservé leur droit d'intervenir militairement sur la bande quand leur nécessité militaire l'impose. La position israélienne est que Israël n'est plus une puissance occupante de la bande de Gaza suite au retrait de ses forces armées. C'est une position qui se trouve tant dans la résolution du cabinet ministériel qui met acte au plan de désengagement que sur les propositions faites par le gouvernement israélien devant la Cour suprême israélienne que dans diverses déclarations des représentants du gouvernement israélien. La Cour suprême israélienne s'est prononcée également dans ce sens, même si, comme on le verra par la suite, sa position est un peu plus subtile que celle du gouvernement israélien. Les arguments principaux employés pour fonder la thèse de la fin de l'occupation suite au désengagement sont de deux ordres. D'une part, Israël ne peut pas être une puissance occupante, étant donné qu'il n'y a pas de présence physique de forces terrestres sur le territoire de la bande de Gaza. D'autre part, Israël ne peut pas être une puissance occupante parce qu'il n'exerce pas un contrôle effectif, le contrôle requis pour qu'un État puisse avoir les statuts de puissance occupante. Le premier argument renvoie au rôle des forces terrestres dans l'établissement de l'occupation. Autrement dit, la question qui se pose est de savoir s'il est possible d'avoir une occupation belligérante sans qu'on ait de forces terrestres qui sont présentes dans le territoire prétendument occupé. Le deuxième argument renvoie à la notion du contrôle, au degré du contrôle qui est requis pour qu'on puisse affirmer qu'on est devant une occupation belligérante. Autrement dit, la question qui se pose est-il possible d'avoir une occupation belligérante quand l'État en question n'exerce pas un contrôle effectif, voire un contrôle exclusif sur les territoires occupés. Par rapport à la première question, est-il possible d'avoir une occupation belligérante sans qu'on ait des forces terrestres physiquement présentes dans le territoire occupé? Quand on pense évidemment à l'occupation belligérante, on a tendance à penser au schéma classique de l'occupation qui requiert effectivement une présence des forces terrestres sur le territoire occupé. Toutefois, si on regarde la définition de l'occupation énoncée dans l'article 42 du règlement de la Haye, on voit bien que cette définition ne requiert pas la présence de forces, strictement parlant, terrestres. La définition parle qu'un territoire dit qu'un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. Cette armée ennemie, elle ne doit pas nécessairement être une armée terrestre, elle peut également être une armée navale ou aérienne. Dans ce sens, le manuel militaire affirme que « The use of airborne forces and of mechanized warfare may make it difficult to determine whether occupation exists. » On a là un indice que l'évolution technologique de la manière, des méthodes de faire la guerre, pourrait rendre possible une situation où on peut exercer un contrôle effectif sur un territoire sans que ce soit nécessaire d'avoir des forces terrestres physiquement présentes. La situation est loin d'être exceptionnelle ou nouvelle. Elle avait déjà été invoquée en 1913 par les membres de l'Institut de droit international dans le cadre du manuel d'Oxford. Et on peut lire dans l'annuaire de l'Institut, je cite, « L'occupation terrestre peut très bien se concevoir sans la présence de troupes à terre. Si la flotte, par le feu de ses navires, tient sous sa domination les côtes de l'ennemi, au point qu'elle peut y exercer en fait son autorité, on doit considérer ces côtes comme occupées. » Cette remarque est a fortiori pertinente aujourd'hui, comme je vous le dis, étant donné l'évolution technologique de moyens de combat. On comprend donc aisément que le cœur de l'existence d'une occupation ne régit pas à quel type de forces vont exercer le contrôle sur le territoire, mais plutôt sur le contrôle du territoire en tant que tel. Autrement dit, si un contrôle effectif est exercé sur un territoire, peu importe quel type d'armée exerce le contrôle, ou si cette armée se trouve à l'intérieur du territoire ou aux alentours du territoire. Je viens ici à mon deuxième point. Quel est le degré de contrôle requis? L'article 42 du règlement de la Haye parle d'une autorité qui est établie et en mesure de s'exercer. Concernant l'interprétation de cette phrase, la partie de la doctrine qui plaide en faveur de la fin de l'occupation de la bande de Gaza invoque notamment l'arrêt Congo contre Ouganda de la Cour internationale de justice, qui a retenu une interprétation de la définition de l'occupation plutôt restrictive, dans le sens où, selon la Cour, on ne peut avoir une occupation que si les forces étrangères aient également substitué leur propre autorité à celle du gouvernement congolais. Autrement dit, la Cour insiste sur la substitution en tant que telle de la puissance occupante à l'État occupé. Il s'agit, à mon sens, d'une interprétation trop restrictive, étant donné qu'une étude de manuel militaire étatique qui traite de la question d'occupation démontre que c'est en réalité la capacité de la substitution aux autorités de l'État occupé et pas la substitution en elle-même qui constitue le degré de contrôle requis pour avoir une occupation. Ceci est par ailleurs confirmé dans le bien connu jugement du tribunal militaire américain de Nuremberg dans l'affaire des otages, ainsi que par la jurisprudence du TPY Je pense notamment au jugement dans l'affaire Naletilich de 2003. Dans le cas qui nous occupe ici, le contrôle exercé par l'Israël sur les frontières, sur l'espace maritime et aérien, sur la fourniture de vivres, sur les déplacements des personnes qui habitent dans la bande de Gaza, le fait qu'il affirme toujours son autorité de pénétrer à volonté dans ce territoire, indique que Gaza reste toujours un territoire occupé. S'aligne à cette interprétation divers organes des Nations Unies, plusieurs États, le CICR, ainsi qu'une partie de la doctrine, parmi lesquels j'étais ravi de découvrir également le professeur israélien Yoram Dinstein, qui dans son récent ouvrage sur le droit de l'occupation affirme effectivement que Gaza reste un territoire occupé malgré le retrait des forces israéliennes, en invoquant tous les éléments que je viens de vous citer par ailleurs. Dans le même ordre d'idées que le critère de substitution que je viens de vous citer, la doctrine a argumenté que, finalement, pour trouver qui est une puissance occupante, qui est la puissance occupante de la bande de Gaza, enfin, si Israël, plutôt, est une puissance occupante de la bande de Gaza, il fallait comparer le contrôle exercé, d'une part, par l'Israël et d'autre part, par les Palestiniens. S'il s'avère que c'est l'autorité palestinienne ou le Hamas qui exerce plus de contrôle qu'Israël, alors Israël n'est pas une puissance occupante. S'il s'avère que c'est Israël qui exerce plus de contrôle, alors on peut affirmer qu'Israël est une puissance occupante. Cette comparaison, à mon sens, n'aide pas à la détermination du caractère d'un État en tant que puissance occupante, puisqu'elle reflète une approche qui est finalement trop binaire du phénomène de l'occupation. On se cantonne dans un schéma de tout ou rien. Or, une puissance peut continuer à être liée par le droit de l'occupation, même si elle n'exerce pas une autorité exclusive sur les territoires. À cet égard, par exemple, la Cour internationale de justice n'a pas hésité dans son avis du MUR de proclamer qu'Israël était une puissance occupante, après avoir constaté qu'en vertu des accords d'Oslo, il y a eu un certain transfert, enfin, le transfert de certains pouvoirs et des responsabilités vers l'autorité palestinienne. Et d'ailleurs, ce qui est le plus intéressant peut-être du côté israélien, la Cour suprême d'Israël suit exactement la même logique, puisque tout en affirmant que Gaza n'est plus en territoire occupé après le désengagement, il nuance quelque peu son propos et dit qu'Israël doit toujours respecter certaines obligations vis-à-vis de la population de Gaza. Et la source de ces obligations, selon la Cour suprême israélienne, se trouve d'une part dans le contrôle exercé par Israël sur les frontières de Gaza et sur les espaces maritimes et aériens de la bande, et d'autre part sur le fait que le Gaza se trouve dans une situation de dépendance absolue par Israël, qui fait en sorte qu'Israël ne peut pas se désister complètement de ses obligations. La Cour donne comme exemple la fourniture d'électricité. De manière encore plus significative, dans un jugement rendu le 29 janvier 2009, la Cour a été encore plus réservée dans sa position, puisqu'elle a affirmé que, et je cite, "Currently, it is not yet possible to draw conclusions with regard to the factual position in the territory of the Gaza Strip and the scope of control that the IDF has in the new situation that has arisen." Donc, elle semble faire un pas plus en arrière et peut-être affirmer qu'Israël exerce encore plus de contrôle que le simple contrôle de frontières qu'elle avait admis dans sa jurisprudence auparavant. Ayant terminé avec la première partie, je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé, c'est-à-dire l'interception des navires de la flottille dirigés vers Gaza. Je précise dès le début que je vais m'intéresser à la qualification et l'appréciation juridique de faits qui est avancée tant par la mission d'établissement des faits des Nations Unies que par la commission Turkel. C'est-à-dire que je ne vais pas m'engager à une appréciation des faits qui sont d'ailleurs disputés également entre les deux commissions. Tout d'abord, de nouveau, un bref rappel de fait. Il s'agissait, en l'occurrence, d'une flottille mise en place par des organisations de défense des droits de l'homme, composée d'un navire immatriculé dans différents États, qui transportait de l'aide à destination de Gaza. Gaza a été soumis à un blocus naval à partir notamment du 13 janvier 2009, même s'il y avait des restrictions, des mesures économiques qui dataient antérieures à cette date-là. Israël a demandé aux navires de se dérouter et de décharger leur cargaison au port israélien d'Ashrod. La flottille ne s'est pas conformée, elle fut interceptée en haute mer, à 70 milles nautiques de la côte, dans une opération, l'opération Sea Breeze, qui a fait 9 morts et plusieurs blessés. Le navire fut arraisonné et dérouté finalement vers le port d'Ashrod. Israël a justifié l'opération Sea Breeze comme une mesure visant à empêcher la violation illégale du blocus, autrement dit comme une mesure autorisée par le droit de la guerre sur mer liée à l'existence de son blocus naval imposé à la bande de Gaza. Autrement dit, la licéité de l'interception dépend nécessairement d'un examen de la licéité du blocus. Avant de passer à cet examen-là, je voulais juste soulever avec vous une question préliminaire qui concerne le lien entre l'invocation du blocus, de la possibilité d'imposer un blocus à la bande de Gaza, et la qualification du conflit en tant que tel. La position israélienne n'a jamais été très très claire par rapport à la qualification du conflit, de son conflit avec le Hamas. Devant ses propositions à la Cour suprême israélienne, il a toujours accepté qu'il s'agissait, qu'on se trouvait bel et bien devant un conflit armé, mais il n'a jamais été aussi loin que pour qualifier la nature du conflit, autrement dit, est-ce qu'il s'agit d'un conflit armé non international ou d'un conflit armé international. Dans un document issu par le gouvernement israélien suite à l'opération Plomb durci, il dit que as a matter of policy, il applique aux opérations, à l'opération Plomb durci, il a appliqué à l'opération Plomb durci aussi bien le droit humanitaire qui s'applique dans une situation de conflit armé international que le droit humanitaire qui s'applique dans une situation de conflit armé non international, en ne précisant pas quelles règles concernaient quelle situation factuelle précise. La Cour suprême d'Israël a été beaucoup plus loin. Elle a affirmé que le conflit entre le Hamas et Israël était bel et bien un conflit armé international, en se fondant notamment sur des considérations factuelles, autrement dit sur la capacité de Hamas de mener des opérations militaires comparables à celles qu'un État aurait pu mener. La commission turque, elle, s'est trouvée dans une position un peu plus délicate, étant donné que, en vertu des textes et de la pratique relative au blocus, le blocus a toujours été associé à une situation de conflit armé international. La pratique qui concerne l'imposition de blocus dans des situations de conflit armé non international concerne des situations impliquant une reconnaissance de belligérance, donc ne peut pas vraiment nous aider pour la qualification du conflit. Et donc, elle a choisi une voie un peu médiane. Elle a affirmé qu'il y aurait un consensus sur le fait que le conflit entre Israël et le Hamas est un conflit international. Mais par contre, elle dit que elle va examiner les règles concernant le blocus en admettant que c'est un conflit armé international, mais qu'elle aurait appliqué exactement les mêmes règles, même si les conflits étaient caractérisés de conflits armés non international. L'information qui pourrait peut-être aider à décortiquer cette prise de position, c'est qu'un des experts majeurs du droit de la guerre sur mer, le professeur Rachel von Heineg, dans ce qui était celui qui avait rédigé la rubrique blocus dans l'Encyclopedia of Public International Law, dans laquelle il affirmait que le blocus n'est envisageable que dans le cadre de conflits armés internationaux. Bon, concernant la licéité du blocus en tant que tel, il y a certaines conditions procédurales qui sont envisagées par le manuel de San Remo, qui est le manuel invoqué par Israël pour fonder la licéité de sa position. Il n'y a pas vraiment de dispute sur ces conditions. Si vous voulez, on pourra en revenir lors de la séance des questions. Je voulais plutôt vous parler des conditions substantielles et notamment de l'interdiction du caractère disproportionné du blocus. Autrement dit, un blocus est illicite s'il provoque des dommages collatéraux excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. Ici, vous avez deux positions qui sont complètement différentes entre la commission d'établissement des faits de l'ONU et la commission Turkel. La commission de l'ONU affirme que le blocus inflige effectivement des dommages disproportionnés et qu'il est donc à ce titre illicite. Le problème, c'est que dans sa critique, il prend en compte toute une série des conséquences que le blocus a eues sur la population civile de Gaza. Mais par contre, c'est une affirmation qui est plutôt une affirmation gratuite, puisqu'il n'y a jamais une balance contre l'avantage militaire concret et direct attendu de l'autre côté. De l'autre côté, la commission Turkel affirme que le blocus n'est pas illicite parce qu'il n'a pas provoqué de dommages disproportionnés. Le problème avec le raisonnement de la commission Turkel, c'est que d'une part, il interprète l'avantage militaire de manière assez large, et d'autre part, elle affirme qu'elle inclut dans la partie dommages collatéraux une série de critères qui ne relèvent pas vraiment des dommages collatéraux. Par exemple, dans l'appréciation, elle inclut le fait qu'il y a des mesures de contrôle par l'État d'Israël sur le blocus et que Israël dispose d'un régime, d'un système judiciaire tout à fait opérant qui peut garantir la bonne application des mesures adoptées par les blocus. Et donc, a priori, on ne voit pas très bien ce que ça a à voir dans la balance et l'équilibre concernant la proportionnalité au regard des règles du droit de la guerre sur mer. Il y a d'autres problèmes par ailleurs, mais auxquels je ne vais pas entrer, faute de temps. Je vous dis juste, à titre tout à fait non détaillé, disons, que le blocus pose un problème concernant l'acheminement de l'aide humanitaire et un problème en tant que mesure impliquant des peines collectives, en posant des peines collectives face à la population de la bande de Gaza. Sur ça, je vous remercie.
Merci, Bayeuse.